France Inter. Éric Delvaux. Le téléphone sonne.
Parce que trop c'est trop, trop d'images d'incendies hors normes, trop de désolation autour des maisons noyées sous les crues, trop de rapports alarmistes sur le dérèglement climatique, et bien cette accumulation d'angoisse a fini par développer chez certains un nouveau mal baptisé éco-anxiété. Le terme est un peu fourre-tout, mais il regroupe en fait diverses formes d'inquiétudes liées à la crise écologique. Ce mal moderne toucherait surtout les jeunes. Alors on parlera ce soir de solastalgie, cette profonde détresse liée à des changements climatiques qui seraient jugés irréversibles. Cela dit, face à cette éco-anxiété, sommes-nous finalement si impuissants que cela? Eh bien c'est tout le débat de ce soir. Les standardistes attendent vos témoignages, vos questions, ils sont là jusqu'à 20h, ça se passe au 01 45 24 7000.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Avec deux invités pour répondre à vos questions ce soir, Charlène Schmerber, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes thérapeute spécialiste de cette solastalgie dont je parlais à l'instant, et en studio Catherine Larrère, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe et spécialiste de l'éthique de l'environnement. Charlène Schmerber, je le disais en préambule, l'éco-anxiété c'est un terme un peu générique qui recouvre en fait diverses formes d'émotions. Comment est-ce que ça se décline précisément ?
Alors effectivement, vous avez parlé de deux termes différents qui sont l'éco-anxiété et la solastalgie. L'éco-anxiété, c'est ce qu'on appelle un peu une détresse prospective. C'est-à-dire que c'est imaginer l'avenir, ce qui risque d'arriver dans les années à venir, qui va générer chez l'individu tout un panel d'émotions qui va d'ailleurs au-delà de la simple anxiété. C'est des gens qui peuvent ressentir de la colère, de la tristesse, de l'impuissance, de la peur, et osciller vraiment entre ces différentes émotions. Alors que la solastalgie, c'est plutôt une détresse qui est rétrospective. C'est-à-dire qu'on constate la perte de quelque chose, d'un environnement qu'on a connu et qui a été dégradé, et qu'on risque de ne pas retrouver. Voilà, c'est un peu la différence entre ces deux termes qui sont souvent vraiment employés l'un pour l'autre.
Et dans les deux cas, est-ce qu'il y a des sujets plus exposés que d'autres ?
Alors, comme vous disiez en introduction, hein, effectivement, les jeunes, on se rend compte que les jeunes adultes sont assez touchés par cette nouvelle forme d'émotion. Bah, bien évidemment, parce que c'est de leur avenir véritablement dont il s'agit. Donc, ils sont très concernés et ils sont beaucoup plus informés que les adultes à leur âge, enfin, les générations précédentes. D'autres personnes aussi, tout ce qui est les personnes qui travaillent en lien avec le milieu de l'écologie, les scientifiques, sont aussi des personnes qui sont plus à risque.
Alors, je voyais des mails cet après-midi de scientifiques qui parlaient d'éco-grief. C'est encore autre chose ?
Oui, alors il y a un autre terme qui est utilisé par une géographe canadienne qui s'appelle Ashley Kunsolo. Elle parle de deuil écologique, en anglais « ecological grief ». Donc ça fait partie un peu de ces différentes émotions qu'on peut être amené à ressentir du fait de la constatation d'un environnement qui est chamboulé, voire détruit.
Catherine Larrère, je rappelle que vous êtes philosophe et spécialiste de l'éthique de l'environnement. Est-ce que les collapsologues qui pensent que nous allons droit dans le mur, que c'est la fameuse théorie de l'effondrement global, est-ce que les collapsologues ne sont pas les premiers éco-anxieux ?
Alors, je dirais qu'ils font, si je puis dire, sur cette anxiété qui est réelle. Hein, c'est ce qui vient de nous être dit. Il ne s'agit pas de nier que l'appréhension de ce qui vient et ce qu'il y a déjà, ce qui s'est déjà passé, a de quoi rendre inquiet, anxieux. De là à dire que cette anxiété a véritablement un objet et que tout va s'effondrer, c'est le pas qu'ils franchissent et c'est ce qu'on peut remettre en cause.
D'ailleurs, vous avez publié un livre l'an dernier, un essai à contre-courant hein, des collapsologues intitulé « Le pire n'est pas certain », essai sur l'aveuglement catastrophiste, un livre sur le pouvoir d'agir, on en reparlera tout à l'heure, mais l'engagement contre l'impuissance, c'est l'approche que vous souhaitez, c'est la bonne approche face à l'éco-anxiété ?
Ah ben, je pense qu'effectivement, dans l'éco-anxiété, il y a bon, la constatation de ce qui se passe, l'appréhension de ce qui va se passer, mais il y a aussi un sentiment d'impuissance. Et cette impuissance est entretenue par les données globales que nous avons. Lire un rapport du GIEC, si on en reste là...
Ça remonte pas le moral.
Ça remonte pas le moral. Donc, l'important, c'est pas de continuer le rapport du GIEC au-delà de ce qu'il dit, car les rapports du GIEC ne disent pas que tout va s'effondrer. L'important est de retrouver une certaine forme de puissance.
01 45 24 7000, on parle ce soir de l'éco-anxiété avec Olivier qui nous appelle de Saint-Ouen. Bonsoir Olivier.
Oui, bonsoir Éric Delvaux. Bonjour, merci d'avoir sélectionné ma question. Et en préambule, je vais vous dire, j'aime beaucoup le couple que vous formez à l'antenne, Patricia Martin et vous, le week-end.
C'est très gentil. On va revenir à l'éco-anxiété dans un autre registre.
Absolument. Alors, ce que je vais vous dire, moi, je suis pas éco-anxieux, je suis plutôt très en colère face à la situation du monde aujourd'hui. Et je trouve que ce qui nous arrive est... pardonnez-moi l'expression, bien fait pour notre gueule, est le résultat d'un travail très très appliqué pour surexploiter cette terre. Maintenant, il serait peut-être temps qu'on comprenne que la terre est naturellement généreuse, que vous regardiez ce qu'il y a dans les océans sur terre, que ce soit les animaux, les plantes et ainsi de suite. Et maintenant, on a cette incapacité de respecter cette terre, donc... Voilà, ça m'énerve. Et l'autre chose, pour ma part, je veux dire, par exemple, mon action n'a pas grand intérêt, enfin, ou un grand effet, mais je veux dire, il y a par exemple, pas très loin de chez moi, quelqu'un qui produisait des pots de yaourt emballés dans du verre, que je trouvais très très bon. Et à un moment, j'ai dit au commerçant, mais on peut pas demander à ce fabricant de consigner les pots de yaourt, etc. Et donc, une fois j'ai écrit, j'ai jamais eu de réponse. Et depuis, je me dis, ces pots de yaourt, il peut les garder où il veut. Et j'essaye, pour ma part, je veux dire, de ne pas cautionner certaines choses, quoi.
Eh bien, voilà. Merci beaucoup de ce témoignage, Olivier. Ça m'énerve, vient de dire Olivier. Charlène Schmerber, dans votre cabinet, dans quel état retrouvez-vous cette génération, généralement jeune peut-être, cette jeune génération plus inquiète écologiquement que ses aînés? Est-ce qu'elle est en panique, en colère ou désabusée?
Alors les personnes que je reçois peuvent arriver dans différentes émotions. Il y a effectivement des personnes qui arrivent très très en colère. Et qui sont traversés ensuite par les émotions qu'on retrouve un peu dans la courbe de deuil, hein, avec tout ce qui est tristesse, pour finalement tout raccrocher à la question de l'acceptation à la fin. Mais donc c'est des personnes qui arrivent avec différentes émotions, parfois un grand sentiment, comme le mentionnait votre auditeur, un sentiment d'impuissance aussi, avec qu'est-ce qu'on peut faire, quelle est l'action individuelle qui est possible, moi je reçois parfois des gens qui sont dans beaucoup de culpabilité aussi. Ça c'est vraiment un sentiment qui est très important. Et aussi beaucoup de peur. Si je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure de la collapsologie, moi les personnes qui arrivent en ayant découvert un peu ces théories de l'effondrement arrivent avec des scénarios catastrophes assez perturbants. Donc il faut pouvoir mettre un autre imaginaire, déconstruire ces récits pour pouvoir retrouver de la sécurité et un sentiment d'espérance.
Catherine Larrère, vous souhaitiez réagir sur le témoignage qu'on vient d'entendre?
Ben, d'une part, il a raison, c'est-à-dire qu'une grande partie de l'éthique environnementale ou de l'éthique de l'environnement, c'est de réfléchir sur nos rapports à la nature et réfléchir sur le fait que la civilisation, disons capitaliste pour aller vite, dans laquelle nous sommes, a traité la terre, la nature comme un ensemble de ressources et comme des moyens à notre disposition et qu'on en voit la fin. Et que donc, les éthiques de l'environnement, il y en a différentes sortes, mais insistent sur la capacité à respecter, ce qui ne veut pas dire se soumettre, mais au moins être à parité et considérer la Terre comme une partenaire et pas comme un moyen dont on fait ce qu'on veut. Par ailleurs, la question que faire, c'est quelque chose... Chaque fois qu'on fait une intervention, une conférence sur des questions environnementales, maintenant les publics savent, en gros, les dangers. Donc la question, c'est que faire. Et très souvent, il y a eu les petits gestes, hein, éteignez la lumière quand vous sortez d'une pièce,
prenez des douches
et pas des bains, etc. Et on a l'impression que c'est dérisoire. Alors, d'une part, il n'y a pas que des choses dérisoires, il y a eu des calculs qui sont faits, et par exemple, sur le changement d'alimentation, hein, manger, je dirais pas ne pas manger de viande du tout, mais manger beaucoup moins de viande, ça peut avoir des effets très importants sur les émissions de gaz à effet de serre. Mais en plus, faut bien, et je crois qu'en rester à une approche psychologique, on ne risque de voir que les individus. Ce qui est important, c'est la dimension collective.
C'est peut-être les deux, à la fois collective et l'individu, évidemment.
Il faut être individuellement conscient, mais retrouver son estime de soi, son envie d'agir, c'est quelque chose qu'on fait ensemble.
Charlène Schmerber, on parlait des réactions. Qu'est-ce que viennent chercher les personnes en état d'éco-anxiété dans votre cabinet et comment leur répondez-vous ? Comment réagir face à cette éco-anxiété ? En cabinet.
La première chose, c'est de pouvoir en parler. C'est ce dont je m'aperçois, c'est dès le premier entretien, le fait de pouvoir avoir quelqu'un en face de vous qui va écouter et qui va légitimer ce que vous êtes en train de ressentir, à savoir que la situation actuelle, elle est extrêmement angoissante. On voit ce qui est sorti du sixième rapport du GIEC, des constats
lundi dernier.
Du 9 août. Donc forcément, les gens, moi je légitime ça, c'est-à-dire que je dis aux personnes qui arrivent, votre angoisse, elle est légitime. C'est ok d'être angoissé par rapport à la situation actuelle du monde.
Finalement, vous leur dites que c'est tout à fait normal et c'est peut-être même sain d'ailleurs de réagir ainsi.
C'est tout à fait ça. Alors l'éco-anxiété, c'est pas une pathologie. C'est vraiment une réaction émotionnelle adaptative qui est adaptée à la situation actuelle. C'est-à-dire que vu l'état actuel du monde, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt normal d'être anxieux. Donc voilà, déjà c'est ça en fait, de pouvoir avoir quelqu'un en face qui va pouvoir entendre ça, d'autant plus que c'est un sujet qui isole beaucoup. Je me rends compte que chez les personnes que j'accompagne, souvent c'est difficile d'en parler avec le conjoint, c'est difficile d'en parler avec la famille, parce qu'on passe pour le Cassandre, l'apporteur de mauvaises nouvelles. Donc finalement, c'est des gens qui se retrouvent assez isolés parfois et qui ont du mal à en parler. Je reçois aussi des gens qui ont accès à des connaissances assez poussées. Donc c'est pas vraiment partageable avec le reste de l'entourage.
Et parmi
donc
vos...
c'est vraiment rechercher du lien.
Et parmi vos patients, même si on parle pas de pathologie, j'ai bien compris, mais parmi les personnes qui viennent vous voir, est-ce que certains veulent s'investir un peu plus dans des causes environnementales en réaction à ce que vous appeliez tout à l'heure en début d'émission une forme de culpabilité?
Alors oui, tout à fait. Ça rejoint ce que disait Catherine Larère sur l'action individuelle et collective. Moi, je m'aperçois que en stratégie de coping, c'est-à-dire les stratégies qui permettent aux personnes de vivre avec ce sentiment d'éco-anxiété, parce que je pense pas qu'on puisse l'entériner, enfin le dépasser complètement. Il faut apprendre à vivre avec. Ce qui leur permet d'aller mieux, c'est de se sentir utile. Donc, on se sent utile en faisant effectivement la stratégie des petits gestes. Qui sont quand même importants. Donc on fait des transitions écologiques au sein du foyer. Il y a des gens qui changent carrément de métier parce qu'ils ressentent une dissonance cognitive extrêmement importante. Donc ils sont plus en adéquation avec leurs valeurs. Et d'autres qui rejoignent des collectifs qui vont militer, qui font partie d'AMAP, de manière à pouvoir trouver aussi des personnes qui vont avoir la même vision du monde, ou en tout cas avec lesquelles ils vont pouvoir partager des valeurs communes. Donc le collectif est très important et c'est vraiment un levier pour sortir de ce sentiment-là qui parfois peut figer et générer chez la personne une forme d'éco-paralysie, c'est-à-dire qu'on bouge plus, on se sent tellement impuissant que...
C'est l'impuissance et l'immobilité. Catherine Larère, voilà. Vous souhaitiez réagir ?
Oui, je crois, enfin, la dimension collective est importante et aussi peut-être d'étudier plus ces angoisses qui sont pas uniquement des angoisses personnelles, c'est pas uniquement pour soi qu'on a peur, On a peur aussi, et c'est ça que désigne le terme de solastalgie, on s'émeut pour son environnement. Hein, si la solastalgie est le mot inventé par Glenn Albrecht, un Australien, pour parler des émotions de la terre, c'est que c'est la perte de l'environnement. Donc ce qu'on éprouve, c'est pas une perte individuelle, c'est une perte d'un lien. Et à ça, on peut ajouter que, eh bien, on peut collectivement ressentir la perte d'un monde. Et dans cette collectivité, j'irais tout bêtement, si on pense aux alcooliques anonymes, hein, se retrouver dans une même peine et dans une même difficulté,
c'est déjà
ça
prendre une distance avec le sujet. On parle donc ce soir de solastalgie et d'éco-anxiété. 01 45 24 7000 au standard de France Inter. Il y a Luc qui nous appelle des Pays de la Loire. Bonsoir Luc.
Oui, bonsoir, j'ai à peu près 60 ans, donc moi j'ai encore peut-être 20 ans d'espérance de vie et que, moi ma propre fin c'est une chose, mais là, ce qui va se passer pour mes enfants et mes descendants me fait atrocement peur, quoi. Et je suis scientifique de culture, j'ai suivi ça pendant des années et vraiment quand vous allez creuser scientifiquement, c'est effrayant, quoi. Là, on peut parler de la disparition des ressources halieutiques, du pH de l'océan, d'un scénario à 3 degrés du GIEC, si vous voulez, où l'agriculture va s'arrêter dans 30 ou 40 ans. Enfin, tout, vous avez les faits. Les faits sont là, quoi. Et ça, c'est, je ne sais pas. Alors, je me tais. Je ne sais plus quoi penser parce qu'on est vraiment... et on voit la société qui continue à vivre comme si de rien n'était, quoi. Et moi, ce qui me fait vraiment peur, c'est pour mes descendants. Moi-même, je disparaîtrais, ça, c'est une chose. Mais la première fois dans l'histoire que des gens comme moi se disent, mais mes descendants, ils vont vivre quelque chose de terrible, quoi. Même si ma finitude est simple, quoi. Je veux dire. Voilà.
Alors, merci de ce témoignage, hein, Luc. Des témoignages comme le vôtre, il y en a beaucoup ce soir au standard de France Inter et. Qui se télescope en ce moment aussi avec les méga incendies comme celui en ce moment dans les massifs des Maures. C'est de l'angoisse d'abord, et je m'adresse à vous, Catherine Larère. Ces incendies, c'est de l'angoisse d'abord pour ceux qui y sont directement confrontés. C'est aussi de l'anxiété pour une partie de ceux qui voient les images à la télévision. Face à cela, Catherine Larère, quel discours tenez-vous pour mettre l'éco-anxiété un peu à distance devant ces images toujours un peu plus angoissantes chaque soir?
Mais je crois que ça a été bien étudié. Être en position de spectateur, c'est pas une position qui incite à agir. Et la constatation aussi bien passive de résultats sur lesquels on n'a pas prise que d'images effrayantes, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Alors, personnellement, j'ai pas la télévision, mais je ne défends pas.
Mais vous écoutez peut-être les infos de France Inter et vous savez ce qui se passe.
J'écoute les infos de France Inter, je lis Le Monde, etc. Non, c'est pas la question. Mais je veux dire, ce qui est important, je crois, ce que disait l'auditeur, ce qui est important, c'est que qu'est-ce que ça veut dire d'avoir peur pour ses enfants? Il y a un philosophe américain qui s'appelle Sam Scheffler qui a montré que ce qui nous permet de surmonter ce qu'il appelle notre finitude, c'est-à-dire le fait qu'on mourra tous, c'est la confiance que des générations futures nous continueront. Ce qui amène par exemple des scientifiques à entreprendre des travaux dont ils savent très bien qu'ils mourront avant qu'ils soient menés à bout, c'est la certitude que les générations continueront. Donc une peur sur la fin de l'humanité peut rétroagir même pour des gens qui se disent qui seront morts quand on arrivera à 3 degrés, peut entraîner une angoisse. Donc je crois que là, moi, ce que je réponds, c'est de regarder ce qui se passe. Parce que, d'une part, il y a ce dont on est spectateur passif, les 16 millions d'hectares qui ont brûlé en Sibérie cet été, ce qui est énorme quand on y pense, ou ce qui se passe dans les morts, qui est plus près de nous. Bon, et où on assiste, et ça provoque une sidération. Mais il y a aussi des quantité de choses qui se passent dans le monde. Il y a des gens qui changent de forme de vie.
Des quantités de choses positives, vous
voulez
dire.
Des quantités de choses positives. Et je crois que c'est en déglobalisant sa peur et en regardant autour de soi, alors dans ce qu'on fait soi-même et dans ce qu'on peut faire avec d'autres, qu'on peut retrouver confiance en soi.
Charlène Schmerber, la solastalgie, cette détresse face à un avenir incertain, elle est réservée à ceux qui cherchent à s'informer principalement ?
Non, c'est ça. Vous pouvez tout à fait ressentir ce sentiment-là. Je donne souvent le même exemple, mais si vous allez faire toujours la même randonnée en été et que à la fin de le parcours cette année, ben vous pouvez plus mettre les pieds dans l'eau parce que le ruisseau s'est asséché, ben vous allez ressentir de la solastalgie. Donc c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est un peu à la portée de tout le monde. Mmh. Après, effectivement, ce qui est certain, c'est que il y a des populations qui sont beaucoup plus informées, qui ont beaucoup plus accès à l'information et qui auront tendance à être beaucoup plus sujets à ces émotions-là.
Est-ce que ce n'est pas finalement Greta Thunberg qui a popularisé l'idée d'une éco-anxiété ? En janvier dernier, je lisais devant le Forum économique de Davos, elle disait « Je ne veux pas de votre espoir, je veux que vous paniquiez, je veux que vous ressentiez la peur que je ressens tous les jours. » Catherine Larrère, vous êtes philosophe. Je veux que vous ressentiez ma peur. Ça dit quelque chose, ça ?
Bon, d'abord, c'est pas possible. Les émotions ne se commandent pas. Ce sont des résultats.
Alors, je veux que vous paniquiez, dit-elle.
Mais moi, je suis. Enfin, on a beaucoup dit sur les questions environnementales que la peur, qu'il fallait faire peur pour agir. Je suis personnellement, et c'est une des raisons pour lesquelles je ne suis pas ni catastrophiste ni collapsologue, je pense qu'on peut avoir raison d'avoir peur si c'est une peur informée. Je pense pas que ça soit bon d'entretenir la peur chez les autres. Sartre décrivait la peur comme le sens de la peur, c'était une sorte de déroute qui nous faisait quitter ce qui nous fait peur, quoi.
Avant d'aller au standard, je vous pose la politique. Est-ce qu'il vous semble que certains politiques surfent sur l'éco-anxiété pour développer des théories de la catastrophe à des fins purement électoralistes ?
C'est un gros reproche qu'on fait toujours à la peur. Elle est instrumentalisable politiquement. Je pense que l'instrumentalisation politique de la peur, ce sera plus le terrorisme ou les migrations que le climat, parce qu'ils savent quand même que c'est extraordinairement sérieux.
Mais vous-même, dans vos livres, et en affirmant qu'un rebond, qu'un espoir était encore possible en matière d'écologie, vous avez pris le risque d'être qualifié de climato-sceptique.
Non, alors bon, on peut toujours...
On vous la reprocher un peu.
Oui, mais bon, c'est parce qu'on n'a pas dépassé le titre. en effet, bon, ce que nous disons, parce que j'ai écrit ce livre avec mon mari, ce que nous disons, c'est que parler d'un effondrement global, c'est ni prévisible ni rationnel.
Non, vous dites dans votre livre qu'il y a des mondes qui s'effritent, mais pas d'un monde global.
Il y a des quantités de catastrophes, et d'une certaine façon, on pourrait s'effrayer plus que de ce que nous disons que de ce que disent certains collapsologues.
Allez, on va retourner au standard de France Inter au 01 45 24 7000. Il est 19h40 et c'est Anne-Lise qui est en ligne. Bonsoir Anne-Lise.
Bonsoir.
Vous êtes à Cherbourg.
Exactement.
Quelle est votre question ou témoignage ?
Je souhaitais témoigner. Alors moi, je suis en école d'ingénieur, donc c'est un petit peu différent. Et ce que je voulais dire, c'est que on a 90% de nos professeurs, même des intervenants, qui peuvent venir d'entreprises, qui donc nous donnent des cours et nous expliquent comment ça se passe. Donc qui viennent et qui nous informent sur tout ce qui va être écologie, cycle de vie, comment est-ce qu'on crée les produits aujourd'hui, les produits de demain. Et l'impression que nous on a, c'est que ça n'avance pas en fait. On est face à une industrie aujourd'hui qui est fermée au changement, même par rapport à des conceptions de moteurs, par rapport à l'énergie. On a eu un cours sur tout ce qui était déplacement, par rapport à la voiture, même au vélo, tout ce qu'il pouvait y avoir. Et ce qu'ils nous disent, eux, en face, c'est que de toute façon, on ne trouvera jamais mieux que le moteur thermique, on ne trouvera jamais mieux que les solutions qui sont actuelles avec du plastique, et que on arrive au bout des idées, en fait. Alors, on espère que c'est pas ça. On a sur nous, entre guillemets, le poids du changement. C'est comme si toute ma génération, on nous a répété depuis la maternelle qu'il faut trier nos déchets, qu'il faut essayer de faire attention à notre planète. Et aujourd'hui, en école d'ingénieur, où on espère pouvoir rentrer dans les entreprises et arriver à faire quelque chose de l'intérieur, on se rend compte qu'on est face à des gens qui nous disent bah, y a rien à faire. C'est comme ça, tant pis.
Peut-être aussi générationnel. Merci de ce témoignage, Anne-Lise. Catherine Larère, on vient de parler de l'impuissance. Alors, Anne-Lise parle de l'impuissance des industries, des industries fermées au changement. Et elle dit aussi, Anne-Lise, elle dit, on a sur nous le poids du changement. Mais quel poids ?
Mais oui, non, mais c'est vrai, et ça explique la révolte de Greta Thunberg, la révolte des jeunes générations, et que les manifestations pour le climat rassemblent beaucoup de très jeunes. Il y a Extinction Rebellion, etc. C'est effectivement le poids de l'avenir qui est sur eux, et c'est pourquoi elle a raison. La question de l'éducation est si importante. Alors dans les petites classes, moi j'entends autour de moi les gamins qui parlent de la planète. Apparemment, quand on arrive dans l'enseignement supérieur, ça diminue un peu. Et donc il y a un gros travail à faire de présentation, de préparation. Par exemple à l'ENA, on parle pas d'écologie. Donc il y a
Il y a du boulot.
Alors, elle dit ça, que on lui dit qu'on trouvera jamais mieux que le moteur thermique.
Non, c'est ce qu'on lui dit.
Ouais. Elle dit qu'on lui dit. Mais on a trouvé autre chose. Et puis, il n'y a pas que des solutions techniques. C'est peut-être ça le problème. Le problème du solutionnisme qui est la philosophie de l'ingénieur. Il n'y a pas que des solutions techniques. Il y a des changements de mode de vie, surtout.
Charlène Schmerber, je rappelle que vous êtes thérapeute, hein, spécialiste en solastalgie. Après avoir écouté le témoignage d'Anne-Lise, on pourrait dire aussi qu'on ne naît pas éco-anxieux, on le devient. Et est-ce qu'on le devient durablement ?
Je pense que l'éco-anxiété, c'est quelque chose qui reste. C'est-à-dire qu'on apprend à vivre avec, et puis ça prend des degrés un peu différents à partir du moment où on sent qu'on arrive à être dans l'action. Ça vient combattre un peu ces différentes émotions qui peuvent figer, amener l'individu à être un peu sidéré. Donc effectivement, on devient éco-anxieux en constatant ce qui se passe dans le monde. Et vraiment, on apprend à côtoyer cette émotion, mais qui est, comme on disait tout à l'heure, plutôt un signe d'une conscience éveillée, c'est-à-dire d'un juste regard porté sur le monde.
On va retourner au standard, au 01 45 24 7000, avec une question d'Alicia. Bonsoir Alicia.
Bonsoir.
Vous êtes dans la Manche ?
Tout à fait, à Coutances.
Quel est votre témoignage ? Ou votre question ?
Oui. J'en fais un témoignage. Du coup, je suis technicienne de nuit, donc je suis une travailleuse de l'environnement.
Pardon, on n'a pas très bien compris la liaison. Vous êtes une professionnelle de l'environnement, c'est ça ?
Tout à fait, c'est ça. Technicienne zone humide.
D'accord, zone humide.
Tout à fait. Donc tous les milieux en eau une partie de l'année qui participent à l'atténuation des changements qui s'opèrent en ce moment. Et donc je voulais témoigner parce que Madame Schmerber a parlé de l'éco-anxiété qui était assez présente chez les professionnels de l'environnement et les scientifiques, parce que c'est vrai que finalement on côtoie tous les jours les discours des personnes qui ne veulent pas avancer. On est aussi les premiers receveurs de la donnée. Et donc mon témoignage c'était surtout pour dire que tous ceux que je connais, on est tous plus ou moins passés par cette période d'éco-anxiété en arrivant, en sortant de l'école, en arrivant sur place. On se heurte à des élus qui sont pas forcément déjà, qui ne connaissent pas forcément les problématiques, parce que finalement ils n'ont pas que ce qu'on entend à la télé de façon large, ils ne creusent pas le sujet, donc c'est à nous aussi de faire un travail de pédagogie. Et c'est vrai que quand on débarque et qu'on a l'impression qu'on va sauver le monde, c'est-à-dire les professionnels de l'environnement, c'est vrai qu'on s'auto-crée cette éco-anxiété parce qu'on a l'impression que ça avance pas assez vite.
Merci. La liaison n'est pas terrible. À moins que vous vouliez conclure en trois mots, parce que le son n'est pas terrible.
Oui, je voulais juste conclure sur le fait, votre philosophe qui parlait de voir les points positifs. Du coup, on a cette éco-anxiété quand on travaille dans l'environnement, mais finalement, à force de petits
projets qui aboutissent et qui aboutissent dans le bon sens, on va dire qu'on arrive à vaincre cette éco-anxiété. Elle est toujours sous-jacente, mais on arrive quand même à un moment ou un autre à en sortir et à vivre avec.
Eh bien, on va voir ça avec Charlène Schmerber, hein, qui est thérapeute et spécialiste de la solastalgie. On est tous passés par l'éco-anxiété, dit cette professionnelle de l'environnement. On a le même témoignage tout à l'heure d'une étudiante. Finalement, ce qu'on repère ce soir, c'est qu'on peut en sortir, Charlène Schmerber, de cette éco-anxiété.
Oui, tout à fait. Il y a différentes stratégies qui permettent de lutter contre, enfin en tout cas plutôt de vivre avec ce sentiment. Ça va être tout ce qui est retour à l'action et essayer de cultiver un sentiment d'utilité qui vient vraiment faire rempart avec le sentiment d'impuissance. Après, il faut aussi pouvoir regarder un prisme différent. C'est aussi lâcher parfois le prisme global pour voir un peu plus ce qu'on est capable de faire localement, de manière à pouvoir aussi regarder les bonnes choses qui se passent. Et effectivement, comme le disait cette auditrice, moi j'ai des patients qui arrivent avec une vision très noire, c'est-à-dire qu'il n'y a plus accès à des choses positives dans ce qu'ils voient dans les médias ou c'est les informations auxquelles ils ont accès, c'est que des mauvaises nouvelles. Donc il y a vraiment tout un travail aussi à faire d'aller chercher quelles sont les opportunités aussi de cette crise, qu'est-ce que ça crée, et pas toujours regarder que l'aspect négatif qui est certes là et dont il faut prendre soin.
Et juste une précision, Charlène Schmerber, on disait qu'ils sont relativement jeunes, ceux qui viennent dans votre cabinet. Est-ce qu'ils sont aussi de plus en plus nombreux à venir consulter chez vous ?
Oui, alors moi j'ai commencé à travailler sur ce sujet à l'été 2019. J'avais fait une enquête en ligne là qui avait recueilli à peu près 1000 témoignages pour approfondir un peu le sujet de l'éco-anxiété. Je me suis aperçue que en 2 ans, c'était devenu vraiment quasiment l'intégralité de ma patientèle. Et on est en train de travailler avec d'autres collègues à la création d'une association de thérapeutes sensibilisés à ces questions des mutations du monde, de manière à pouvoir répondre à cette demande. Moi, je reçois beaucoup d'emails de personnes qui me demandent si il y a un praticien dans telle ou telle région. Donc c'est un peu ça l'idée, de faire un réseau de thérapeutes de manière à pouvoir renvoyer les gens vers des personnes qui vont pouvoir entendre ça. Parce que malheureusement, il y a certains thérapeutes qui ne peuvent pas encore entendre cette réalité-là. Donc moi, j'ai des personnes qui arrivent en me disant le psy que j'allais voir m'a dit que c'était un faux problème, que c'était un déplacement. Donc
Exactement, je lisais cet après-midi le témoignage d'un de vos collègues, Charlène Schmerber, qui n'est pas du tout d'accord avec vous. Pour ce psychiatre, psychothérapeute, spécialiste du stress et des troubles anxieux, l'éco-anxiété, dit-il, n'est qu'un fantasme de journaliste. Et ce médecin refuse de parler d'un phénomène en ce moment. Qu'est-ce que vous lui répondez ce soir ?
La détresse que je perçois chez les gens que j'accompagne, elle est réelle.
Elle est réelle, mais il a l'air de dire qu'il n'y a pas de phénomène.
Alors, ce qui est sous-jacent, c'est l'idée de que la personne va être anxieuse et puis que l'angoisse va se loger dans une thématique particulière, à savoir l'écologie, par exemple. Donc, parfois, c'est vrai. C'est-à-dire que il y a des personnes qui arrivent avec des troubles anxieux, qui ont des tendances à être très, très anxieux, et peut y avoir un déplacement sur ce sujet-là. Mais néanmoins, je m'aperçois que c'est quand même un sujet qui reste, c'est pas que l'arbre qui cache la forêt. Il faut aller regarder aussi ce que ça dit et vraiment toute la légitimité de ce sentiment-là qui reste important. Après, ce qui deviendra difficile, c'est si on pathologise l'éco-anxiété et qu'on en fait un problème individuel. Là, je pense que c'est...
Vous êtes en train de dire que toute éco-anxiété n'est pas forcément pathologique.
Alors non, l'éco-anxiété, c'est pas quelque chose de pathologique. C'est pas considéré encore aujourd'hui comme une pathologie. C'est vraiment une réaction normale par rapport à une situation qui, elle, ne l'est pas.
Catherine Larrère
qui est en train de se dégrader.
Réagir là-dessus.
Non, moi, je vais tout à fait dans ce sens. Il y a une éco-psychologue, donc de la psychologie de l'écologie de l'environnement américaine qui s'appelle Joanna Macy et qui insiste sur le fait que très souvent à ces anxiétés, on oppose le fait que c'est un déplacement d'une angoisse individuelle qui s'inscrit dans l'histoire de la personne et qui a rien à voir avec la situation globale. Et elle insiste pour dire, mais on peut avoir de la peine pour le monde. On n'a pas uniquement de la peine pour nous-mêmes, c'est pas toujours une projection de nous-mêmes, on peut avoir de la peine pour le monde, d'où l'importance du collectif et d'où la je suis tout à fait d'accord avec Charlène, d'où la gravité qu'il y aurait à pathologiser à une peine pour le monde, à la façon dont en Union soviétique, à la grande période de l'Union soviétique, enfin dans les années 60, on mettait en hôpital psychiatrique ceux qui s'opposaient au pouvoir.
Allez, on retourne au standard avec une question de Dominique qui nous appelle d'Annecy. Bonsoir Dominique.
Bonsoir à tous vos invités. Oui, j'étais maman de deux jeunes femmes qui se posaient la question de mettre des enfants au monde, dans quel monde elles allaient leur transmettre, en fait. Et je suis entourée aussi de pas mal de jeunes couples qui disent hésiter vraiment à mettre en route des grossesses, et si éventuellement ils en mettent en route, ce serait pour un seul enfant et pas éventuellement pas plus.
Mmh. Eh bien, merci de ce témoignage. On va demander à Catherine Larère, qu'est-ce que ça dit ce témoignage?
Alors,
vouloir faire moins d'enfants ou plus du tout d'enfants?
Effectivement, c'est une réaction assez fréquente. Moi, je me souviens une fois, je faisais une conférence sur les questions environnementales et une dame âgée est venue voir à la fin et elle pleurait presque en m'apprenant qu'elle venait d'avoir un petit-fils.
Et elle pleurait de son avenir.
Elle pleurait parce que pour son avenir et bon. Donc je crois qu'il y a la double idée il y a l'idée que on va pas lancer un enfant dans un monde où il va être malheureux. Et puis il y a l'idée qui est très critiquable d'attribuer les problèmes environnementaux à la démographie. Donc on va pas ajouter en plus un enfant. Bon. Ceci dit. C'est là que ça reste un choix individuel et que, comme je disais, on va pas arrêter de faire des enfants. Ça serait une façon d'accepter sa condamnation à mort.
Et puis, il y a la pandémie, le Covid. Je vais vous poser la question, Charlène Schmerber, dans quelle mesure l'épidémie de Covid a-t-elle démultiplié ce phénomène d'éco-anxiété ou de solastalgie?
Oui, ça a été effectivement un gros levier, hein, enfin, de prise de conscience, la crise du Covid. Moi, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai vu un vrai changement dans la quantité de patients éco-anxieux. Bah, d'autant plus, enfin, pourquoi? Parce que on a été vraiment touchés individuellement par cette situation-là. On l'a vraiment vécu, et c'est plus quelque chose de l'ordre de bon, bah, ça va arriver dans quelques temps, dans quelques années. On n'en voit pas forcément les conséquences. C'est souvent ce qui est un peu, enfin, tout ce qui touche au dérèglement climatique, aux problématiques climatiques, c'est assez abstrait pour en tout cas pour les pays du Nord encore. Bon, alors. Effectivement, il y a ce qui se passe cet été-là, mais d'où l'importance de la prise de conscience à travers la crise du Covid. C'est-à-dire que les gens, vraiment, ont vécu quelque chose qui les a marqués dans leur quotidien, dans leur vie professionnelle, et donc ça a été vraiment une vraie prise de conscience à ce moment-là, d'un monde qui se transforme.
Catherine Larère, dans les différentes approches politiques, médiatiques aussi, de cette pandémie, est-ce qu'il vous a semblé qu'on avait parfois abordé cette question par un prisme trop anxiogène?
C'était anxiogène, hein. Surtout au début, moi je me souviens, avec l'annonce des morts, les articles, les présentations qui disaient le pire et qui disaient pas que finalement le Covid, ça pouvait aussi être quelque chose dont on se tirait sans trop de difficultés. Mais je crois qu'on a été, c'est pas les médias, je crois qu'on a été tous dans la sidération. Je dirais que moi, ce qu'a permis le Covid, alors, bon, peut-être une prise de conscience des problèmes environnementaux, mais ça a permis aussi dans les réactions politiques, le quoi qu'il en coûte du président Macron, de voir s'ouvrir des possibles qu'on croyait plus possible. C'est-à-dire qu'on nous disait sans arrêt, mais il n'y a plus d'argent. Et puis tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'il pouvait y en avoir. Et donc, d'une certaine façon, d'où c'est cet espoir qu'il y a eu d'un après-Covid qui serait différent, parce que ça rouvrait les possibles.
Il y avait un monde d'avant et un monde d'après. On va retourner au standard avec Béatrice, qui nous appelle de Poitiers. Bonsoir Béatrice.
Bonsoir, merci pour mon appel.
Avec plaisir.
Alors moi en fait je suis, j'ai 40 ans, je suis maman de 3 enfants et ma prise de conscience s'est faite il y a très longtemps, j'étais jeune adolescente, autour de toutes les problématiques environnementales. Donc il y a 20 ans de ça, 25 ans de ça, on en parlait déjà, mais bon, dans les années 90, pas forcément énormément beaucoup. Là, je pense que la prise de conscience, elle est vraiment... global ou alors plus, enfin, ou très presque global. Et je me dis que le passage à l'action, il est encore vraiment, vraiment, vraiment à la traîne. Moi, ça fait 20 ans que je fais mes produits moi-même. Ça fait 20 ans que je n'utilise plus de plastique, que je cherche des alternatives, que j'achète d'occasion. Mais j'avais toujours le jeu. Et moi, c'est ces jeux, moi, qui
Vous aimeriez qu'on passe au nous.
Et le nous. Et le problème du nous, en fait, c'est que le passage à l'action, on nous le permet même pas, parce que au jour d'aujourd'hui, avec la crise, Covid, etc., on nous coupe tous nos liens. On nous coupe le fait de se retrouver, de prendre des réunions associatives ou même enfin au collectif en général, ou même ne serait-ce qu'avec nos amis ou notre famille, pour pouvoir justement transmettre l'information et passer à l'action. Et avec mes 3 enfants, j'ai beau faire ce que je peux, mais c'est tellement difficile d'être tout seul dans son coin. Et le passage à l'action en collectif, il est là, mais il est trop peu là.
Votre question
où sont les politiques? Où sont les politiques qui puissent nous faire arrêter cette anxiété-là?
C'est pas ce soir qu'on va répondre à ces questions-là. L'aspect politique de la chose, c'est un autre débat. En revanche, ce que j'ai compris, c'est que vous n'aimeriez pas non plus transmettre cette anxiété à vos enfants. Charlène Schmerber, c'est un sujet qui revient fréquemment dans votre cabinet?
Oui, le sujet de qu'est-ce qu'on transmet aux enfants et aussi la question de est-ce qu'on fait des enfants aujourd'hui alors qu'on sait le monde dans lequel ils risquent de vivre. Ça, c'est effectivement un motif de consultation pour des jeunes femmes ou des jeunes hommes qui se posent vraiment cette question et qui ont besoin de pouvoir poser leurs craintes de manière à trouver la bonne réponse pour eux.
Charlène Schmerber, je vous laisse terminer. Oui.
Comme le disait Catherine Arrère, un monde où on ne fait plus d'enfants, c'est un monde qui meurt. C'est aussi ça.
J'avais une autre question d'auditeur, je vous les pose rapidement. Charlène Schmerber, pourquoi l'éco-anxiété est-elle aussi peu étudiée en France, alors que dans d'autres pays, on lit des articles, des mémoires, comme en Australie par exemple. Pourquoi si peu en France?
Alors effectivement, c'est surtout l'Australie ou les pays anglo-saxons qui se sont saisis de ce sujet-là.
Et il nous reste 20 secondes.
Là, en France, il y a quand même de plus en plus de mémoires, de thèses qui commencent ça arrive dans les universités.
Bien, merci. Merci d'être venu témoigner, d'éclairer nos lanternes ce soir sur la solastalgie, l'éco-anxiété. Merci beaucoup. À la préparation ce soir, il y avait Adèle Domas, Pierre de Certaines et Zoé Fauché. À la technique, Loïc Frapsos et Tristan Gratalon. Dans quelques secondes, 20h.